Four forward, drift into the right level.
Tout le monde est à son poste.
Du lundi au jeudi, le sous-marin, la quasi-quotidienne d'infos de Radio Campus Angers.
Après 2 ans d'existence au cours desquels ils auront sorti 5 titres en démo, fait une dizaine de dates et obtenu le soutien de structures musicales de leur Mayenne d'origine telles que le 6x4 ou le Festival des 3 éléphants, le groupe Men s'apprête à sortir leur premier EP, Athénaïs. 4 titres post-punk teintés de leurs influences musicales du Manchester des années 80 à la scène rock plus contemporaine. Pour en discuter, nous sommes avec Manuel, leur chanteur. Salut à toi.
Salut.
Alors on va parler un peu du groupe et de l'EP dans quelques instants, mais avant ça, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours? Quand est-ce que toi, tu as commencé à te plonger dans la musique, que ça soit en tant qu'auditeur un peu plus assidu ou en tant que musicien?
Alors moi, j'ai pas un parcours musical classique. J'ai pas forcément fait conservatoire, j'ai pas forcément appris d'instrument, je suis plutôt autodidacte. Et par contre, je suis un gros consommateur de musique. Surtout par les biais des plateformes de streaming, et du coup j'ai pu me faire, on va dire, en 10 ans une bonne culture. Et mais c'est pas quelque chose qui s'est fait directement par une pratique musicale, c'est surtout par une écoute musicale. Et c'est ce que je trouve cool aussi par ce biais là c'est pas arrivé dans quelque chose de très orthonormé, quoi. C'est un peu faire à sa sauce, et ça se retrouve dans le groupe, donc ça c'est cool.
Parce que c'est pareil aussi pour tes camarades musiciens, ils ont un peu cette approche aussi autodidacte et plus auditeur que...
Eh ben pas du tout. Non, en fait on est trois membres dans le groupe, et le bassiste et le guitariste, eux, ont fait un conservatoire tous les deux ensemble. Ils ont fait essentiellement de la percu, de la basse et de la guitare un petit peu à côté, mais eux ils ont une formation, on va dire, un petit peu plus classique. Par contre c'est des gros consommateurs aussi dans leurs univers. On a des univers différents en termes de goûts musicaux, mais eux ont une version un peu plus classique, on va dire, de l'apprentissage musical. Et moi je suis un peu l'électron libre dans ce groupe là.
Et t'as commencé quand alors, même toi, cette pratique autodidacte du chant? Parce que là, donc, le groupe s'est monté il y a 2 ans, mais avant ça, alors déjà, est-ce que t'avais eu d'autres projets aussi avant? Et juste, depuis combien de temps tu t'es rendu compte que c'était cool de chanter et que tu pouvais le faire comme ça, quoi?
Bah, en fait, c'était le 23 mars 2005 dans ma douche. Je me suis rendu... Non, je plaisante. En fait, non, j'ai vraiment pas eu d'apprentissage comme ça, on va dire scolaire du chant. Je chantais pour mon plaisir. J'essayais d'imiter des chanteurs que j'aimais et je me suis rendu compte que ça fonctionnait bien. Et du coup, en fait, de fil en aiguille, on se connaissait tous dans le groupe, on était tous dans le même lycée, et on s'est dit, bah voilà, pourquoi pas essayer de montrer un projet dans une petite ville où on va dire l'ensemble des écoutes musicales sont plutôt mainstream. Nous, on s'est dit, bah on va venir casser tout ça et on va essayer de chercher un son un peu plus hybride qui va mêler à la fois des sonorités de nos parents qui sont ultra 80s et pour certains kitsch, et on l'assume, et d'un autre côté aussi des penchants ultra californiens, plus modernes. Et voilà, en fait c'est vraiment j'aime bien parler d'une musique hybride, parce que d'un côté, sans mauvais jeu de mots et sans, enfin, vous allez voir, le goût de la métaphore va être exceptionnel, vraiment une musique hybride, parce que d'un côté on a l'essence de notre musique qui se trouve dans les sonorités new wave, dans les sonorités post-punk, et de l'autre côté on a le côté électrique, vraiment hybride, essence électrique et...
Ah, habile.
Et le côté électrique d'une musique plus actuelle, qui utilise beaucoup de synthé. On voit par exemple Théo, du coup notre bassiste, a une bonne renommée dans le milieu de la techno-industrielle avec son projet L'Atlas, et du coup c'est bien de pouvoir mixer ces deux gros pans, en fin de compte, musicaux, et d'en faire un produit qui déjà nous plaît et qui visiblement semble plaire à beaucoup de personnes, donc ça nous botte énormément, quoi.
Et en venant comme ça, donc, comme tu disais, d'univers musicaux assez différents, vous avez quand même réussi à trouver justement des points communs, des ponts entre ces sonorités-là pour parvenir à quelque chose qui vous plaise à tous, quoi.
Yes, bah, moi, si tu me permets, je vais citer une interview de Woodkid que j'ai vue il n'y a pas si longtemps, il y a 2 ou 3 jours. Pour son dernier album, il a expliqué qu'en fait, il avait voulu fonctionner comme une... Enfin, il a pris son CD, en fait, et il l'a cassé par terre. Et il s'est dit, tous ces petits fragments-là, là, qui viennent d'univers différents, eh ben, je vais les recoller pour faire un objet, entre guillemets, qui part des mêmes bases que le premier CD, mais pour créer une autre œuvre. Et en fait, nous, Men, c'est un peu ce principe-là. C'est, on va chercher plein d'influences qui sonnent cool à nos oreilles, et qui sonnent cool dans les oreilles de beaucoup de personnes, et qui n'ont pas forcément été exploitées par beaucoup d'artistes. Et voilà, on a fait un collage qui au final crée un univers bien précis où beaucoup de personnes peuvent se retrouver, quoi. Donc c'est ça l'essence de Men, en fin de compte.
Et comment ça s'est passé une fois donc vous êtes rencontrés au lycée, vous avez commencé à jouer ensemble au lycée, et une fois que bah voilà, enfin comme de très nombreux groupes de musique ont vu le jour au lycée, et pourtant bah après on connaît le destin de 99% de ces groupes, bah vous quand vous avez fini le lycée, quand vous êtes peut-être parti ailleurs aussi, continuez vos études, continuez vos parcours personnels, vous avez quand même réussi à croire assez, à avoir envie de continuer ce projet-là.
Yes, bah en fait ça part aussi d'une amitié qu'on a tous les trois et tous les quatre, parce que maintenant on est quatre en version live avec un batteur qui est nantais, et en fait on est tous partis dans des univers géographiques différents, donc Laval, Bordeaux, Lyon et Nantes, et mais par contre l'amitié fait que on continue à se voir et on continue à produire, et c'est ça aussi qui est plutôt sympa, c'est parce que chacun va chercher en fait des influences différentes dans ces villes. On voit par exemple une ville comme Bordeaux où il y a une scène rock très 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 importante, et une ville comme Lyon où il y a une culture street très importante également, et ben c'est bien parce que du coup ça favorise un peu ce melting pot, et le ciment de ce melting pot là c'est notre amitié. Ça fait très bateau ce que je viens de dire, mais c'est beau, j'en ai la larme à l'œil.
Et donc t'évoquais un peu les scènes bordelaises et lyonnaises, elle en est où la scène lavalloise? Parce que moi je suis resté il y a quelques années où via des amis j'ai découvert qu'il y avait eu ou qu'il y a peut-être encore une scène hardcore qui était assez vivante, avec notamment Bird in Row qui avait influencé pas mal de musiciens de cette époque là maintenant ça en est où, c'est quoi le paysage?
C'est surtout centré autour du 6 par 4 et des 3 éléphants, faut se l'avouer, c'est deux belles structures qui en forment qu'une seule au final, mais qui sont divisées en deux, et c'est un festival et une SMAC, et qui proposent dans un département comme la Mayenne où de prime abord, à part être félicité par le président pour le Covid, on se dit il n'y a pas forcément beaucoup de musique, et si au final, parce que il y a une place qui est laissée à beaucoup d'artistes émergents, et on a vraiment la possibilité de se faire entendre et de se faire accompagner, et ça c'est une opportunité qu'on n'aurait peut-être pas eu dans une autre grande ville. Donc c'est vrai que pour certains, le fait d'être dans une ville un peu de province, une petite ville de 50 000 habitants comme Laval, ça peut être un frein. Et nous, au final, on le joue à fond dans ce sens-là, parce qu'il y a des opportunités qui sont hyper conséquentes. Par exemple, on a participé au tremplin Les Émergences, qui était notre première scène, et qu'on a remporté, c'était notre première scène, on l'a remporté directement. Mais ça n'aurait pas forcément... était peut-être possible dans des plus grosses villes, donc justement c'est pour certains c'est un frein, mais pour nous c'est complètement un atout, quoi.
Et à partir d'un moment on le sait, bah voilà, nous on voit pas mal de groupes de la scène angevine passer ici, on les voit aussi en dehors, il y a toujours un moment où il faut voilà, une fois que t'as pu avoir une assise sur la scène locale et que t'es identifié au niveau local, il y a toujours un peu un palier à franchir pour réussir à s'exporter ailleurs au-delà des frontières de sa région d'origine. Comment est-ce que tu le sens, toi? Comment est-ce que ça peut se faire pour Men?
Bah aujourd'hui,
sachant qu'en plus c'est un contexte
un peu chelou. Mais en fait aujourd'hui je pense que la communication, le streaming et avoir une bonne base sur les réseaux sociaux, c'est l'essentiel. Par exemple, les trois éléphants nous ont permis de tourner un clip qui peut être un beau produit de communication. Donc ça c'est top. Je pense que le côté musical 100%, il est ultra nécessaire dans une pratique musicale actuelle, mais il faut pas le dissocier d'une bonne com et d'essayer d'aller dans des trucs un peu décalés et vraiment sortir du carcan classique et se démarquer comme ça en fin de compte, et après de ce postulat là essayer d'aller chercher des scènes un peu aux extérieurs de ton environnement de base, quoi. Et ça après c'est le temps qui fait la chose, et c'est aussi le fruit des communications et puis des produits musicaux qu'on fait, comme l'EP qu'on sort par exemple le 31 octobre. Donc c'est un processus entre guillemets classique, mais tourné bien réfléchi quand même autour de la com et autour de la musique, quoi.
Et donc justement, pour revenir un peu sur l'EP, alors par contre, une dernière question avant, avant ça, vous aviez sorti donc 5 titres en démo un peu au fil des ans, à une époque où justement, tu l'as dit, on écoute beaucoup de musique en streaming, où finalement, on voit de plus en plus, bon ça dépend un peu des genres musicaux, mais on voit de plus en plus pas mal de gens qui en plus en ce moment décident de sortir des tracks de manière individuelle. Est-ce qu'il y a toujours quand même un sens à sortir voilà, un EP, un album, est-ce que c'est quand même un truc qui est important, qui marque un peu un parcours musical?
Nous, notre EP, en fait, à la base, on fait vraiment du bedroom producing, comme je pense 90% des personnes de notre âge qui font de la musique. Et on s'est dit, en fait, on sort des démos pour à un instant T dire, ok, voilà, aujourd'hui on fait ça, aujourd'hui on propose telle musique. Est-ce que ça vous plaît? C'est un peu un questionnaire, mais au lieu d'avoir une question ou une réponse, bah on mettait une démo sur les internets. Et du coup, on s'est posé la question de les enlever ou pas, et on s'est dit non, parce que on a sorti un EP, ça a marqué entre guillemets un laps de temps de Maine, donc de la création à aujourd'hui, avec un melting pot de sons, et on a gardé vraiment ces démos-là pour montrer un peu notre cheminement aussi. Ça, c'était une démarche qui nous tenait à cœur, c'est de nous dire il y a toujours dans la musique mainstream actuelle, on a envie de dire ok, l'artiste il est parfait dès le départ quoi. Mais moi j'y crois pas à cette démarche-là. Ce qui m'anime moi dans la musique, c'est les imperfections et de se dire que bah ok, aujourd'hui quelqu'un comme je sais pas, on parlait d'Hervé par exemple qui jouait à Laval hier soir, et ce mec-là il fait une musique ultra léchée, ultra produite, elle est super cool, mais avant il a eu d'autres parcours. En fin de compte, il a fait d'autres choses. Et c'est ça qui est bien aussi, c'est que tu regardes sur 5, 10 ans, 15 ans, et on voit l'évolution, et il y a un côté encore plus humain. C'est pas vouloir faire de la perfection ultra modelée, c'est que bah voilà, on fait une musique qui a des ascendances quand même assez garage punk, et du coup bah on l'assume complètement, ce côté au début c'était pas produit, maintenant c'est produit, et peut-être que dans 10 ans ce sera encore mieux produit. Mais l'ascension elle est comme ça, et ça on trouve ça cool.
Et donc cette EP Athénaïs, quand est-ce que vous avez commencé à travailler dessus, alors que ça soit, est-ce qu'il y a des morceaux que vous jouiez déjà, on répète, qui ont évolué aussi, comment est-ce que vous avez commencé à le construire et quand est-ce que ça a commencé ce processus?
Mais en fait, du coup, ça fait à peu près un an et demi qu'on joue sur scène, mais ça fait un peu plus de deux ans et demi qu'on compose, du coup, avec Paul, le guitariste. On composait à deux sur Ableton, en format classique. Et en fait, on a quasiment 40 maquettes aujourd'hui avec Maine. En langage un peu plus classique, une maquette, c'est un produit musical qui peut être, on va dire, exploité. Et dans ces 40 maquettes, on a forcément des sons qui, en live, ressortent mieux et qui plaisent plus aux auditeurs. Et du coup, on s'est dit, aujourd'hui, on a tant de sons, on en a tant qui fonctionnent bien, et bah pourquoi pas les sortir dans un format un peu plus professionnel, on va dire, pour pouvoir faire profiter les auditeurs d'un enregistrement et d'un mastering, et pouvoir aussi, nous, in fine, avoir un produit qui est fini et pouvoir se dire, ok, Maine de 2019 à 2020, c'était ça, quoi. Voilà, c'est encore ce processus d'évolution que moi je trouve intéressant, c'est de dire, voilà, ça marque une période, maintenant on fait un trait, on défend l'album, ok, mais on va vers un autre album, et peut-être que la musique elle va changer, etc. Et donc voilà, Athénaïs, c'est vraiment nos deux premières années de pratique qui sont condensées dans un EP de 4 titres, quoi.
T'en as parlé un peu vite fait, mais alors de la manière dont vous travaillez ensemble en termes de composition, chacun bosse un peu ses parties et vous proposez ça aux autres, ou chacun peut un peu regarder et dire, tiens, bah là je me suis dit j'ai telle sonorité, là j'ai un bout de texte, comment est-ce que ça se passe?
Alors si on, je sais pas si on va pouvoir faire un placement de produit, mais vive Ableton déjà, d'une. Et en fait, la complexité de notre pratique musicale personnelle, c'est qu'en fait on est tous à des endroits géographiques différents, comme je l'ai dit précédemment, et du coup les outils de MAO sont hyper pratiques, parce que du coup dans le groupe, Paul, le guitariste, compose 95% en fin de compte de la trame d'un morceau, et en fait après il nous l'envoie et nous on la peaufine, moi avec du chant, Théo avec un travail sur les percus et la basse. Et du coup c'est bien, c'est pratique, parce que on a beau être à 600, 800, 1000 km les uns des autres, on arrive à se voir régulièrement pour répéter, mais pour les processus de création c'est pratique parce qu'on est tous dans notre chambre perso avec notre PC, et en fin de compte on peut monter comme ça. Donc c'est à la fois une effusion personnelle qui se transforme à la fin en une effusion collective, et le fait de faire des passe-passe avec les morceaux comme ça, ça permet en fait de travailler plus profondément et que chacun apporte sa patte en fin de compte, et à la fin le produit fini il nous plaît en théorie tous, et du coup je remercie le créateur d'Ableton, je sais pas son nom, mais
toi aussi, au-delà du chant que tu as appris en autodidacte, donc par la force des choses, tu as aussi commencé à composer et tu arrives à utiliser Ableton.
Ouais. Question suivante.
Au niveau des textes, toi, de l'écriture, quelles sont les thématiques que tu abordes? Est-ce que tu as des sujets qui reviennent de prédilection dans les choses qui t'inspirent?
Je pense que c'est un truc de pré-adulte sorti d'adolescence. C'est des questions qui sont... En fait, j'aime bien sur mes textes, et la musique est un peu de la même... Enfin, la musique de Paul est un peu composée de la même manière. On aime bien avoir une ambivalence dans le propos, c'est-à-dire qu'on va beaucoup questionner les choses, questionner le soi. Il y a un truc hyper introspectif. Par exemple, on aime bien décomposer les morceaux en deux parties, une partie un peu white, une partie un peu black, où on se dit, bah ok, d'un côté tout est beau, d'un côté tout est moche, quoi. Et ça participe énormément à cette dynamique du post-punk, qui est un courant hyper mélancolique en fin de compte. Et donc nous, on aime bien voilà, avoir une je vais reprendre les éléments de la bio, mais un chant aux graves ombragés. Je trouve cette phrase géniale. Et à côté de ça, voilà, une rythmique qui est très autoroute, mais des guitares qui sont un peu solaire surf en fin de compte. Et c'est cette ambivalence, on sait pas trop où se trouver. C'est pas un son qui est trop glauque, c'est pas un son qui est trop happy. Mais là, il y a un juste milieu où on mixe tout. Et au niveau du chant, c'est la même chose. Moi, je vais aborder des sujets qui me sont chers et qui sont personnels. Mais par exemple, des histoires de relations amicales, amoureuses, familiales, des questions que en fait tout jeune adulte se pose à l'époque où j'ai écrit certains textes. Je vais avoir 18-19 ans, et je pense que c'est dans la tête de tout le monde à ce moment-là. On se dit, bah voilà, pourquoi la vie elle est comme ça, quoi, c'est con. Tu commences à avoir des responsabilités, et bah en fait dans Men, les paroles et la musique questionnent ces responsabilités là, et questionnent en fait le fait de devenir quelqu'un en fonction de son identité, et voilà la question ultime, qui suis-je, quoi. Et ça, c'est cool, parce que du coup dans une musique hybride, on peut se permettre d'avoir des thèmes hybrides, et c'est génial.
Vous aviez lancé aussi une campagne de financement participatif pour soutenir la sortie de l'EP. Vous aviez un objectif de 1200 euros que vous avez atteint. Ça vous permet de rentrer dans vos frais? Ça vous permet d'avoir un peu de marge pour la suite?
Ah, l'argent. Là, c'est... En fait, à la base, on voulait faire quelque chose d'autoproduit. On voulait pas forcément de partenaire. On aime bien ce côté indépendant, de pouvoir se dire, ok, on est parti de... Comme dirait Drake, started from the bottom, now we're here. je déconne. vraiment de se dire, voilà, on fait une musique indépendante depuis le début, et on fait de l'autoproduction, donc le crowdfunding c'est rêvé pour ça. On a eu la chance d'avoir une base solide de personnes qui nous suivaient et qui ont pu remplir cette cagnotte. Au final, on en a eu plus que prévu, et on les remercie tous et toutes. Et voilà, on a pu produire un album qui a forcément un coût, mais qui a une qualité beaucoup plus conséquente que les démos, par exemple. Et ça, c'est top, parce que je pense qu'à une époque, les plateformes de crowdfunding, c'était du main à main, et là, si on devait récolter les billets de vin à tout le monde, c'était une catastrophe. Que là, au moins sur internet, c'était top, et ça a bien répondu dès le départ, et donc ça, c'est super cool.
Pour la production, pour le mixage, vous avez fait appel à qui? C'était quelqu'un que vous connaissiez? Est-ce que, entre vous, le son que vous avez en autoproduction, et là, avoir un mixage et une prod fait par quelqu'un d'autre, vous êtes content quand même de ce que ça a donné? Ça a bien fonctionné?
En fait, le truc, c'est qu'on a tous une vision de la musique produite différente, et on le fait de travailler vis-à-vis d'Ableton, on a nos manières de faire qui sont un peu différentes, et là il nous fallait entre guillemets un carrefour, et donc la question de c'était Thomas Ricou, du coup, qui est un producteur de Laval, qui enjôle un peu pas mal de groupes, et on l'a contacté, et en fait c'était la personne qui était la plus objectif pour faire ce travail-là. On a eu plusieurs propositions, mais on s'est tourné vers lui parce que il avait la même vision que nous de la musique, cette musique hybride faite de fragments, et au final on a fait un produit qui nous plaisait à tous les quatre, tous les cinq même, et ensuite on l'a envoyé au mastering, donc on a eu de la chance sur le master parce qu'on est tombé sur un ingénieur mastering qui masterise beaucoup de mainstream. J'ai envie de dire que 30 à 40% des titres qui passent sur les radios concurrentes de grande échelle sont faits par lui. Donc on a un son qui sonne en termes de mastering très moderne et très actuel en fin de compte. Je vais éviter de citer les autres noms qu'il a masterisés, mais Vita Slimane. Et du coup c'est cool parce que à la fois on avait nous notre pierre angulaire et qui était vraiment taillé à notre image, et lui il a su proposer un master qui était hyper actuel, donc ça crée une musique indé mais qui quand même en termes de ressenti audio a pas à pâlir devant d'autres sons un peu plus mainstream quoi. Donc c'est bien, c'est une très très bonne alchimie pour nous en tout cas.
Vous avez donc un batteur qui est avec vous sur scène. Yes. Et par contre vous utilisez les boîtes à rythme en studio
ouais.
Voilà,
en fait l'utilisation des boîtes à rythme, nous, c'est quelque chose qui nous tient à cœur parce que vraiment la base, la structure de main en termes de drum et de basse, c'est tout le cold wave, new wave et toutes les énumérations qu'on peut en faire de Manchester dans les années 80, donc Joy Division, New Order, pour citer que. Et du coup, en termes de production, nous, ça nous bottait d'avoir vraiment cet effet autoroute, vraiment très club. Qui nous concrètement nous excite bien quoi. Et par contre en live on se disait ça peut être sympa d'avoir quelque chose de plus visuel, et du coup on a appelé on a fait appel à Johan Coupé qui est l'ancien machiniste de Vendôme et le machiniste actuel de Reeves et Waves Work, donc qui sont plusieurs groupes qui sont bien ancrés dans la scène nantaise, et du coup ça nous apporte sur scène ce petit effet visuel qui est ultra sympathique. Et puis lui avec ses nuances de jeu, ça vient encore plus modeler le son, mais on garde toujours les sons de la boîte à rythme, mais sauf que au lieu d'être hyper routinier, hyper autoroutier entre guillemets, c'est pas très radiophonique comme terme, on s'en fout, là lui il vient les jouer, et du coup ça crée une atmosphère encore plus intéressante parce que quelqu'un qui va taper avec pour faire un kick, s'il tape deux fois et que le kick il résonne bien dans les subs, c'est beaucoup plus visuel qu'une machine qu'on lance, même si ça nous déplaisait pas parce qu'au final le format A3 c'était avec une boîte à rythme à la base, mais là c'est un peu une plus-value quoi, et c'est super top.
De votre côté, pour les autres instruments, vous permettez aussi de tenter des choses par rapport aux versions studio quand vous êtes sur scène, d'avoir des petites phases d'impro sur un coup de synthé, sur un truc ou...
Yes, du coup les deux autres, mes deux autres compères sont des amoureux finis d'une machine qui s'appelle un Minilog. Ils en ont deux, ils dorment avec et tout. Voilà. Donc en terme de texture, c'est vrai que on peut se permettre des trucs hyper cool sur scène. J'aurais aussi Théo à la basse a des très 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 bonnes notions de funk disco, donc ça permet des solos qui sont hyper club également. Et voilà, en fait on se concentre vraiment sur l'autoroute de la batterie électronique qui pose un cadre, et derrière on en fait un peu ce qu'on veut quoi, mais toujours dans cet esprit un peu indé garage libre quoi, et qui je pense ressent dans notre musique. Par exemple on s'autorise à la guitare des gros noise avec de la reverb et du delay, et c'est top quoi. Quand l'ampli pleure et le guitariste aussi, c'est à la fois visuel et à la fois sonore, c'est trop bien.
Là maintenant pour la suite, comment est-ce que ça va se passer? Donc vous avez choisi le très bon moment pour sortir un EP à les défendre sur scène. Vous avez quand même des idées de quelques dates, ou est-ce que bien d'autres groupes en ce moment, finalement la période ça va se prêter à composer, à faire des clips, à trouver d'autres formats pour comme tu l'as dit, pour permettre d'avoir d'autres choses en termes de communication, puisque de toute façon le live c'est quand même très indéterminé en ce moment.
C'est sûr, mais alors là en ce moment on est à fond dans le clip. Du coup on en a tourné un grâce aux 6x4 qui nous ont financé un clip en version live entre guillemets, un objet de com qui est hyper hyper bien ficelé selon moi, et qui va bientôt sortir. On va également sortir tourner un deuxième clip mi-novembre qui sera beaucoup plus indépendant, donc encore une fois pour créer ce décalage entre l'ultra produit et le truc très garage indépendant, Et puis voilà, on se concentre aussi sur la promotion de l'EP et on a des dates, on peut pas trop en parler pour l'instant parce que malheureusement je pense que les programmateurs sont réticents à annoncer des dates et pour in fine les annuler, donc là ce sera secret professionnel, mais ouais, et pourquoi pas enchaîner sur un deuxième EP. Je pense que d'ici un an ou deux ans c'est la marche qu'on va suivre et on va essayer le plus possible, dans la mesure du possible en tout cas, de défendre notre EP sur scène.
Et ben, si vous voulez découvrir donc l'EP d'Athénaïs, il sort le 31 octobre, suivez-les sur leurs réseaux sociaux également pour avoir idée des prochaines dates, et merci beaucoup Manuel.
Merci à toi.